Le saphir par Alfred Edward Woodley Mason. 1 heure du matin. La lumière voilée de 6 bougies prête une douceur mystérieuse au visage des femmes et joue en reflet sur l'acajou de la table ronde où l'argenterie et la porcelaine offrent le plaisant désordre qu'est la grâce d'une fin de souper. Les coudes s'appuient sur la table, les voix se relancent avec entrain, la conversation comme une balle, la fumée des cigarettes et des cigares monte en mince colonne. C'est l'heure où les théories s'improvisent pour s'illustrer d'un récit qui leur serve d'exemple. Un des convives venait d'émettre l'avis que la perfection des vieilles fables tenait à ce que, au temps où elles furent composées, on ne voyageait pas. Elles avaient de l'unité, elles étaient complètes en soi. Aujourd'hui, le plus casanier des hommes s'en va courir si loin et se mêle à tant de gens, dont la précipitation égale la sienne, que sa vie est un brouillamini de sensations, une chose sans dessein, comme les histoires qu'il raconte. Celui qui parlait ainsi eut la fatale coquetterie de marquer une pause entre la théorie et l'exemple. De l'autre côté de la table, en face de lui, une voix tranquille s'interposa. « J'ai eu pourtant cet après-midi même le dernier mot d'une fable aussi achevée, aussi complète, que le fut jamais une fable écrite, bien que certains épisodes s'en déroulent à Londres, d'autres sur les bords d'un fleuve lointain, et que les personnages qui s'y rencontrent viennent des confins opposés du monde. » « Il doit donc y avoir dans votre fable, opina l'un des convives, quelque chose qui lui donne de l'unité. »« Effectivement, répliqua le colonel Strickland, il y a un saphir. » Les dames furent incontinentes toutes oreilles. Le colonel n'avait plus qu'à raconter son histoire. Car d'abord, elle tournait autour d'un joyau, qui est bien l'objet le plus palpitant. Ensuite, le colonel Strickland se singularisait par un air de froideur et de romanesque qui éveillait en soi l'intérêt. Pour peu que vous voyagiez, il vous arrivera tôt ou tard, soit sur un paquebot, soit dans quelque passe solitaire d'une montagne, ou dans quelque populeuse cité orientale, de tomber sur un officier de l'armée britannique, qui, parvenu encore jeune au terme de son service, ne connaît plus d'autre mode d'existence que la marche. Généralement, les officiers de cette catégorie paraissent suivre inconsciemment la tradition de Campbell d'Argyle, qui, dans les années 40 du dernier siècle, partit de la mer Caspienne, gagné à l'Inde à pied par le Turkestan et la Boukharie. Le colonel Strickland faisait partie de cette élite. « En ce qui me concerne, dit-il, tout commença il y a 5 ans. J'avais franchi en piéton les hauteurs qui, de la province chinoise du Yunnan, descendent vers Bamo sur l'Irrawaddy, et là, j'avais pris passage sur l'un des grands steamers fluviaux à destination de Mandalay. Le capitaine du navire était un Américain, Michael D. Crawford, à quoi rime le D, je l'ignore. Ses traits, d'une maigreur anguleuse et dure, trahissaient sa race. Mes 2 yeux brillants et mobiles en démentaient la dureté. Imaginez l'un de ces hommes qui vous trompent de prime abord parce qu'ils ont de secrets dans l'apparence et qui se montrent en réalité communicatifs jusqu'à un point, jusqu'au point où leurs confidences deviennent intéressantes. « Je démarre demain à la première heure, me dit-il. Cependant, que tête à tête, nous prenions un whisky soda dans le grand salon du pont supérieur que bordaient les cabines. C'est mon dernier jour de navigation sur ce vieux fleuve. J'ai hâte de débarquer à Mandalay et d'en finir avec le service. Je suis en train de m'orientaliser, ce qui m'inquiète. Je reviens dans mon pays, à Detroit, pour y reprendre enfin l'existence mouvementée qui convient à un citoyen d'Amérique. En fait, nous démarrâmes avant le jour et je ne songeais pas à m'en plaindre. Car la nuit sans air, la hauteur de la berge sur laquelle nous étions mouillés et la grande allège à double pont amarrée au flanc du navire rendaient l'atmosphère de ma cabine irrespirable. Les eaux cependant étaient basses. Malgré le chantonnement continuel des 2 sondeurs attelés à leur perche, 2 fois dans la journée nous donnâmes sur des bancs de sable. Et les 2 fois, il nous fallut du temps pour nous dégager, avant de reprendre notre marche sinueuse. Vers le soir, le capitaine Crowther quitta son poste sur le roof, tandis que le timonier prenait place à la 2e roue de gouvernail, dans le grand triangle du pont ouvert, en face du salon. Et presque aussitôt, un long trait de lumière gris pâle, projeté par le fanal avant, allait argenter l'émail blanc et rouge qui jalonne le chenal et signale les bancs de sable. Nous approchions du village de Tagaoum. Innocemment, je dis au capitaine, « Vous allez sans doute relâcher ici pour la nuit ?» Je vis le premier officier se mordre les lèvres comme pour réprimer un sourire. Et le capitaine me regardait d'un œil vif, interrogateur, comme si ma question lui semblait suspecte. « Non, colonel, me répondit-il d'un ton délibéré, je vais tâcher d'atteindre Tabaïkin. Je ne resterai à Tagaong qu'une demi-heure. » Il y a là, insinua le premier officier, beaucoup de sacs de riz en souffrance. « Eh bien, le prochain steamer aura de quoi faire, » répliqua le capitaine. Dans ce même instant, pour la troisième fois, nous touchâmes sur un banc. Le navire n'avait pas encore repris sa liberté, que la nuit était venue avec son cortège d'étoiles, et que notre faible trait de lumière grise s'était changé en un large rayon d'or où tourbillonnaient, blancs comme des flocons neigeux, des myriades de phalènes pressées de mourir à la flamme. Nous doublâmes un pli du fleuve, et la lueur d'une forte lampe à pétrole nous montra l'endroit de l'accostage. S'avançant alors tout doucement, le capitaine Crowther fit pivoter son fanal, qui, dans un cercle de feu, nous révéla un de ces spectacles dont jamais pour ma part je ne me fatigue, la déclivité brunâtre d'une plage, de gros sacs de riz empilés très haut, par rangées régulières, toute la population du village accroupie et babillant autour d'une lampe de tempête, les couleurs gaies, délicates et chatoyantes des coiffures et des étoffes, les épaules bronzées des hommes, les carrocos blancs des femmes, par-ci par-là un moine bouddhiste drapé dans sa brillante robe safran, au sommet de la berge, des maisonnettes recouvertes de chaume, l'inimitable pagode et tout alentour la jungle chuchotante, c'était Tagaong. Je descendis à terre, sitôt qu'on eut abaissé la passerelle. À ma grande surprise, le capitaine en fit autant. Sans s'occuper de moi, il gravit tout droit la pente de la plage, comme si une affaire urgente l'eût appelé là-haut. Je le vis aborder une jeune femme qui avait une rose dans les cheveux et menait par la main un enfant, trop âgé sans doute pour qu'elle le portât à califourchon sur ses épaules, comme font les mamans birmanes. Tous les trois s'éloignèrent dans l'ombre. Une bonne demi-heure avait passé, quand le capitaine Crowther revint à bord, le dernier de nous tous, tenant un paquet ficelé dans un papier marron. Il bondit alertement sur l'échelle du gouvernail, fit larguer les amarres. La distance et l'obscurité reprirent le village. Alors il sourit, à la façon d'un homme soulagé d'une rage de dents, et se mit à fredonner un refrain américain. Le paquet bosselait maintenant à la poche de sa vareuse blanche. Pour la première fois, je crus flairer chez lui quelque chose d'assez sinistre. Ici, du bout de la table, une dame interrompit le colonel Strickland. « Et le saphir, quand y venons-nous » demanda-t-elle avec un brin de pétulance. « Excusez-moi, nous en sommes déjà loin, » répliqua le colonel. « Mais n'ayez crainte, nous le retrouverons. » Et il reprit. La gaieté du capitaine Crowther s'expliquait de reste. Il était le protagoniste d'un petit drame très ordinaire, très vulgaire. Il avait contracté dans le pays ce que, par euphémisme, on appelle un mariage à la birmane, c'est-à-dire un mariage sans cérémonie, et il plantait femme et enfants dans ce village de l'Irrawaddy, leur laissant le soin de se débrouiller à leur guise tandis que lui-même il filait vers les États-Unis. Mais cela ne me regardait pas. Nous débarquâmes tous les deux à Mandalay. Je ne devais plus le revoir qu'en février de l'année dernière. À Detroit, interrogea celui des auditeurs dont la théorie avait provoqué cette histoire. « Pas du tout, » répondit Strickland, « sur l'Irrawaddy. » La dame qui soupirait après le saphir claqua des mains. « Il n'avait jamais dit adieu à son bateau, voilà tout, » affirma-t-elle. « J'ai horreur de contredire personne, » gémit le colonel Strickland, « mais si le capitaine Crowther n'avait jamais dit adieu à son bateau, jamais, nous n'en reviendrions au saphir. Écoutez-moi. » Et brusquement il se pencha, les coudes sur la table, de sorte que tous les yeux s'attachèrent à lui. Un très saint abbé de la religion bouddhiste était mort à Chouégou, sur l'un des bras du haut fleuve. Ses funérailles devaient se faire en grande pompe. Les gens accouraient pour y assister de toute la contrée environnante. Il devait y avoir 3 jours de fête, de représentations théâtrales, de danse. À cette fin, le corps du vieil abbé était conservé dans du miel, selon la coutume qui inspirait l'excellent précepte, refusez toujours du miel en Birmanie. Enfin, l'heure était venue. Les baraques de jeu étaient dressées, la pagode d'Oripo où l'on devait incinérer le corps, le char funèbre sur lequel on devait le conduire nonobstant les efforts des démons pour le retenir, le petit temple également fait de clinquants où reposait le cercueil, les cordes même par le moyen desquelles le temple devait glisser dans la chambre supérieure de la pagode, tout cela bariolait la plage de Chouégou en attendant la cérémonie. Chaque village des rives inférieures déversait sur notre steamer et ses allèges un flot de moines et de paysans. Or, à Tabaïkin, savez-vous qui je vois monter à mon bord, tout rasé, une épaule nue, les pieds nus, le corps drapé dans la robe jaune des moines ?
Le capitaine Michael D. Crowther.
Oui, le capitaine était de retour sur l'Irrawaddy, mais avec une écuelle de mendiant pour quêter son riz de tous les jours et une natte pour s'y étendre à la nuit sur le pont d'une de nos allèges. Il avait le teint brûlé d'un birman. Mais comment se méprendre à cette face maigre et anguleuse, plus maigre et plus anguleuse que jamais ? Il s'accroupit sur le pont à l'écart des bandes joyeuses, car les funérailles birmanes ne sont qu'une liesse, ouvrit un grand livre et y plongea le nez, tandis qu'à quelques pas de là, un petit garçon attaché à son service le contemplait avec révérence. Une nouvelle interruption coupa la parole au colonel Strickland.
« Et vous ne fûtes pas étonné, colonel ?»«
En Orient, » répondit le colonel Strickland, « il n'y a pas grand-chose dont on s'étonne. Mais je sentis que je causerais volontiers avec le capitaine Crowther. J'avais pour cela tout le temps.
Remonter l'Irrawaddy est une autre affaire que de le descendre. Nous n'aborderions à Chouégou que le lendemain à midi. J'observais le capitaine. Il était perdu dans son livre et s'inquiétait peu qu'un Européen quelconque le reconnût. Après le déjeuner, je passais sur l'allège et me penchais près de lui contre la lisse.
« Comment allez-vous, capitaine ?»«
Heureux de vous voir, colonel, » me répondit-il aussitôt.
« Je vous ai reconnu ce matin en arrivant à bord.
« Alors, vous n'avez pu vous défendre d'en revenez-y ?»«
Non, » dis-je, « ni vous non plus. »
Et d'emblée, comme s'il n'eût attendu que cette invitation, il se lança dans les confidences.
« Oui, colonel. Peut-être vous souvient-il qu'en repartant en droite ligne pour Detroit, je me proposais d'y mener la virile existence américaine. J'y échouais. J'avais pris l'habitude de la lenteur. Des gens venaient derrière moi, me dépassaient, allaient faire quelque affaire à deux blocs de maison plus loin, puis s'en revenaient sur leurs pas et me croisaient alors que j'avais dépassé tout juste le premier bloc. Si après cela ils continuaient à faire des affaires, je l'ignore, mais ils me le donnaient à entendre. Ils étaient diligents et remuants alors que je flânais et musais. Et j'en éprouvais un sentiment d'infériorité, vous voyez ça. Puis je commençais à regretter ce pays, sa chaleur, sa douceur, sa gaieté, et tous ces... Il promena sur l'allège un sourire, dont la cordialité me parut s'accorder peu à ce qu'il y avait chez cet homme d'émacié, d'éthique. Et tous ces mioches. J'en vins à trouver Detroit effarant avec ses cheminées d'usine. Il me sembla que je ne pourrais plus en sortir, que j'y étais engagé comme un enfant dans un bois, et enfin... Enfin, je n'avais cessé, durant qu'il parlait, de le sentir tourner autour de quelque chose et de quelque chose qui devait être important. Il avait l'air, maintenant, de vouloir passer outre à ses scrupules.
« Vous vous rappelez Tagaou ?» me demanda-t-il.
« Oui. »«
Vous m'y avez vu sur la plage ?»«
Oui. » Eh bien, cela finit par me tracasser à Detroit. Voyez-vous, j'avais commis ce qui, pour un citoyen américain, est la faute inexpiable. J'avais oublié le préjugé de couleur. J'avais à Tagaou, sur l'Irrawaddy, une femme au teint de cuivre et une petite fille de sang mêlé. Oui, monsieur, leurs souvenirs me rendaient misérable. Si misérable qu'un jour, subitement, je fis une découverte. Ce n'était pas l'infamante question de couleur qui me tourmentait, mais la pensée même de la jeune épouse au teint de cuivre portant une rose dans les cheveux et de la fillette en qui se confondaient les teints de nos deux races. Il me fallut 3 années. Pour m'en rendre bien compte. Mais sitôt que ce fut fait, diligent cette fois, et remuant comme n'importe quel homme d'affaires de Detroit, je m'en retournai en Birmanie. Je rentrai chez moi. Et dès que je fus chez moi, adieu toute honte. Vous me suivez ? Je fis un signe affirmatif. Crowther se leva, me rejoignit, et s'appuyant à mon côté contre la lisse. Je restai 1 ou 2 jours à Rangoon, puis je débarquai à Prome, où j'attendis le ferryboat. Après cela, je passai une semaine à Mandalay, m'enquérant à loisir d'une place où je pourrais m'installer après être allé à Tagaung chercher Ma Sein et notre fillette. Avec mes appointements, accrus de mes commissions sur les cargos, j'aurais de quoi marcher un bout de temps. Je revis d'anciens amis, je rôdai autour des débarcadères, je goûtai un plaisir délicieux à différer mon voyage de Tagaung. Tout le monde savait que j'étais en Birmanie, c'était l'essentiel, n'est-ce pas ? Si je ne le compris pas tout de suite, je n'allais pas tarder à le comprendre. Le capitaine Crowther remonta le fleuve comme passager. Il avait fini par s'entraîner à un véritable état d'exaltation envers Ma Sein. Ainsi qu'il me le dit, en propres termes, elle l'occupait jour et nuit par le sentiment de sa chair. Quand, avec lui à Tagaung, je descendis sur la plage
il n'était pas très solide sur ses jambes. Un vieillard à barbe blanche s'avança vers lui d'un pas tranquille, et pour regarder, tous les hommes, toutes les femmes qui se baignaient ou lavaient leurs cheveux dans le fleuve haussèrent la tête. « Je suis Maung Loan, le père de Ma Sein. J'attends depuis des jours la venue du capitaine. Eh bien, me voici. » Sa voix tremblait. « Venait-on lui apprendre la mort de Ma Sein ? Non. » Événement pire, Ma Sein avait épousé un Birman, et elle était heureuse. « Je ne voulais pas le croire, » continua Crowther, cependant que nous approchions de Kata et que le couchant nous enveloppait de son incendie. Je déclarai que j'allais monter jusqu'à la maison et voir tout cela par moi-même. Le vieillard changea de visage. Trois ou quatre jeunes hommes s'assemblèrent sournoisement autour de nous. Il y aurait du grabuge si je m'obstinais. À quoi bon, du reste ? Ma Sein, si elle eût tenu à me voir, fut descendue sur la plage. Aucune force ne l'en eût empêchée. Voyez-vous, j'étais resté 3 ans à Detroit, et dans ces 3 ans j'avais perdu de vue bien des choses. Ceci notamment que dans un village du Haut-Fleuve, une femme qui a eu un enfant d'un blanc acquiert un grand prestige et se voit extrêmement recherchée en mariage. Ma Sein devait être aujourd'hui à Tagaung une personne de qualité. Le seul parti que j'eusse à prendre, c'était de faire demi-tour et de laisser Ma Sein en paix. Je ne pouvais m'y résoudre. J'avais envie de tomber par surprise dans le village. J'étais au supplice. Le vieux Maung Loan et ses amis me surveillaient, rangés autour de moi comme les joueurs de champ au baseball. Et voilà que, tout à coup, dans un groupe d'enfants qui jouaient à proximité, j'aperçus ma petite fille. Cela me décida. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans. Elle en avait 8 maintenant, mais il ne faisait point doute qu'elle ne fût ma fille. D'abord, elle portait, sans aucune nécessité, un casque de toile, et aussi des chaussettes et des souliers, par simple pose, manière de s'afficher comme la fille d'un blanc. Elle était là, entourée avec déférence, la petite reine des enfants de Tagaung. Elle profitait de ses belles heures, fort éloignée certes, de soupçonner que son père était à 20 pas d'elle. Pourquoi lui aurais-je gâté ses joies? Si je reprenais Ma Sein et l'emmenais à Mandalay, la fillette ne serait plus là-bas qu'une métisse. Ici, elle avait l'honneur de l'être. Je tournais le dos et remontais à bord, mais je venais de perdre tout courage. J'avais raté ma vie en tant qu'Américain 100%, je la ratai une seconde fois en tant qu'Européen orientalisé. Je repartis pour Mandalay et peu à peu, je songeais à ceci. Le capitaine tirait sur sa robe. N'être rien, n'avoir plus aucune existence, serait-ce une existence d'âme, me rapprocher autant que possible de cet idéal sur la terre, et après le plus petit nombre possible de réincarnations, acquérir cette spiritualité totale qui me donnerait droit à l'extinction absolue. Il s'exprimait avec une douceur aimable, mais je n'eus pas moins la vision rapide, et qui devait rester la seule, des longs tourments à la cruauté desquels il était en train d'échapper. Sa voix mourut, son visage et tout son corps s'immobilisèrent. Déjà il était à 100 000 de moi. Je le laissai accroupi sur sa natte, indifférent au mouvement du vapeur qui se rongeait contre le quai tumultueux de Kata, et tout à fait pareil à n'importe quel fakir de l'Inde. Néanmoins, j'emportais la conviction qu'il ne m'avait pas tout dit. Je me rappelais le paquet qui gonflait sa veste d'uniforme la dernière fois qu'il avait quitté sur son navire la plage de Tagaung. Il débarqua le lendemain et se perdit dans la foule entre les huttes. Je l'ai revu la semaine dernière. Le colonel Strickland fit une pause de quelques secondes pour jouir de son effet. Alors, du bout de la table, la dame qui l'avait précédemment interrompu s'écria, presque hors de souffle, « La semaine dernière, à Londres, par conséquent. »« C'est une vérité banale, » répliqua le colonel, « que nulle part il ne se passe rien d'aussi extraordinaire qu'à Londres. »« Mais à Londres, il n'y a pas de monastère bouddhiste, » protesta un auditeur complètement dérouté. « Aussi ne l'ai-je pas dit, » répondit le colonel. « Quand j'ai revu le capitaine Michael D. Crowther, il déjeunait, en compagnie fort brillante et fort gaie au café parisien de l'hôtel Semiramis. Dans sa robe jaune, sans doute, railla celui des auditeurs qui avait fait inutilement les frais d'une théorie en vue de placer une histoire. Il était si bien habillé qu'on ne s'en apercevait pas, dit Strickland, et il portait les cheveux en brosse. Les questionnaires se turent. On attendait la reprise du récit. Assurément, le capitaine Crowther avait fait quelque chose de non commun en passant du pont d'un steamer dans un monastère bouddhiste. Mais qu'était cela, comparé à sa migration d'un monastère dans le grill-room d'un grand hôtel de Londres? Cependant, personne ne songeait à suspecter la parole du colonel Strickland. Et le colonel, en ce moment, cachait mal qu'il s'amusait. Il allumait tout doucement un cigare. Si l'art du conteur consiste à tenir le public en haleine, le colonel le savait. Il s'appuya au dossier de sa chaise, comme s'il n'en avait pas fini avec les sujets d'étonnement, et demanda « Quelqu'un de vous a-t-il connu Letty Ransom ?» Il se fit un mouvement curieux et un froid brusque autour de la table. « Toute personne qui vient de mourir prend un intérêt considérable pour les vivants qui l'ont connue. Ne l'aurait-il connue que de façon accidentelle ?» Elle a franchi les portes que tout le monde sait vaguement, sans le croire, avoir à franchir un jour. Comment le passage s'est-il effectué pour elle? Durant quelques jours, la question se pose obscurément dans le fond des esprits, importante et pressante. Et quand la personne morte était une jolie femme, qui avait pour elle le rire, l'élégance, les riches toilettes, l'éclat d'une robe de théâtre, si bien que la simple mention de son nom provoquait le sourire et causait un sentiment de plaisir, l'intérêt s'en trouve terriblement accru par la suggestion d'on ne sait quelle disconvenance bizarre. « Je vois que vous l'avez connue, » poursuivit Strickland en inclinant la tête. « Letty Ransom intervient ici dans mon histoire. On me l'a dépeinte comme une personne en qui s'alliaient le bien et le mal. Pensionnaire d'un couvent, elle s'était laissée enlever par un escroc. Ils avaient ensemble couru le monde, et 2 ans plus tard, après bien des hauts et des bas, ils échouaient à Londres. Letty trouva un débouché dans l'opérette. Son succès y fut, comme vous le savez, immédiat et immense. L'escroc en profita pour organiser un tripot clandestin où Letty menait les moutons à tondre. De surcroît, elle se droguait, et je ne vous apprends pas qu'elle en est morte avant-hier. Voilà pour ses mauvais côtés. D'autre part, dans la pauvreté comme dans les ennuis de tout genre, elle resta fidèlement attachée à son triste sire. Jamais elle ne médisait de personne. Elle avait un cœur léger, le sens de l'humour, et sauf dans les heures noires où elle se livrait à la drogue, une gaieté remarquable. Or, c'était avec elle que déjeunait Michael D. Crowther, et Marcel Leslie était au nombre des convives. « Oui, » interrompit la dame au bout de la table, « une Letty Ransom traîne toujours la remorque de Marcel Leslie. » Le colonel regarda la dame. Il se demandait dans quelle mesure elle pouvait connaître son histoire, ou si elle avait lâché son trait au hasard. « Je m'approchai de leur table, » reprit-il, « et je serrai les mains de Letty et de Michael D. Crowther. » Voilà qui vaut mieux que les pots de miel de Chouégou, dis-je à l'ancien capitaine. En tout cas, c'est différent, répondait-il d'un ton sec. Je n'avais jamais vu un homme moins confus, moins embarrassé. Letty me dit, vous savez la façon charmante qu'elle avait de vous prendre par le bras, comme si vous aviez pour elle une extrême importance, quand vous n'en aviez aucune. Donc, Letty me dit, vous venez à l'Albert Hall, n'est-ce pas, au bal que donnent les héros et les croix, laissez-vous faire. Procurez-vous un domino rouge et soyez des nôtres. Les héros et les croix, qu'est-ce que c'est que cela? Dis-je. C'est bien la première fois que j'en entends parler. Comment en auriez-vous entendu parler? Je ne pense pas qu'il soit question de choses aussi folâtres dans la jungle. Les héros, ce sont les hommes. Les croix, ce sont les femmes. Venez-y, monsieur Crowther y vient. Alors j'y vais aussi. À la bonne heure, s'exclama Michael D. Crowther. Et j'allai à l'Albert Hall. Letty Ransom n'avait plus que cette soirée à vivre. Elle était délicieuse à voir. Elle portait un costume de jeune paysanne alsacienne suprêmement exquise et idéalisée. Généralement, elle ne mettait point de bijoux, mais ce soir-là, un gros saphir, du bleu magnifique et profond dont se colorent un jour d'été les eaux de la Méditerranée, pendait à une chaîne de platine sur la blancheur de sa gorge. Elle dansa avec moi dès que je l'en priais, car elle était toujours gentille, et tout en dansant avec elle, je manœuvrais pour me renseigner sans en avoir l'air sur Michael D. Crowther. Il avait été présenté un mois avant par un jeune gandin de la Société des pétroles birmans, actuellement en congé à Londres. « Depuis lors, il ne nous quitte plus, » dit-elle. « Vous savez les conditions que requiert ce monde insouciant et allègre. Vous n'avez pas à être spirituel ni brillant. Si vous êtes brillant, cela fait bien, mais rien ne vous y oblige. Vous devez contribuer à l'amusement général, mais en évitant plus que tout la plaisanterie trop mordante ou sarcastique. À cet égard, les dames d'opérette sont comme le Tommy anglais. Bref, une fois que vous êtes là, il ne tient qu'à vous d'y rester en vous conformant aux usages. » Michael D. Crowther jugea bon d'y rester. Je sus que dans le petit cercle de Letty Ransom, il inspirait des sentiments sympathiques. « Le pauvre cher vieux, me dit-elle, est bien l'un des êtres les plus solitaires que j'ai jamais rencontrés. Celui de nous qui arrive à le faire sourire a le droit de marquer un point. » Je quittai la salle de bal vers 3h30 du matin, et qui trouvais sous le péristyle Crowther. Évidemment, il m'attendait. Il était en domino jaune. Sa maigre silhouette ainsi drapée, si vous faisiez l'effort d'oublier son col empesé, sa cravate blanche et ses cheveux coupés droits, vous pouviez fort bien le prendre pour le moine qu'il était de temps à autre. « Colonel, je vous accompagne, » me dit-il. Je le connaissais suffisamment pour comprendre qu'il était dans un de ses moments d'expansion. Je hélai un taxi. « Montez, capitaine Crowther, » lui dis-je, et je l'emmenai chez moi. Je lui offris un verre de whisky soda et un cigare. Il déclina mon offre avec un sourire pour lequel je ne trouve que l'épithète, odieuse parce qu'inévitable, de doux. « Pas besoin de feindre avec vous, colonel, » me dit-il d'un ton aimable. « Vos plaisirs ne sont point faits pour moi. Il est vrai que j'ai dû y venir sur le tard, mais j'avais mes raisons. Sans doute, » fis-je, et il partit, ou plus exactement, il se rua dans les confidences. « Je ne vous ai pas dit toute la vérité, colonel Strickland. Je le savais, » interrompis-je. « Quand, il y a 5 ans, je laissais ma Sein à Tagaon, je revins à bord du steamer avec un petit paquet. Je l'avais remarqué. Il déformait votre veste d'uniforme. Ma Sein me l'avait remis en dépôt. Il y avait eu des vols dans les environs du village, et elle avait peur. Le paquet contenait son petit trésor, bijoux, amulettes et bracelets d'or, chaînes d'améthyste, collier de jade, quelques bagues, une étoile de la destinée, en rubis, et un ou deux spinels montés sur or, le tout d'une valeur assez relative. C'était uniquement les cadeaux que je lui avais faits, du moins le pensais-je, et elle me les remettait en garde. Cela me parut providentiel à l'heure où je repartais pour l'Amérique. Parbleu, oui, je les garderai. Il me souvient que je ris sous cap à la roue du gouvernail, tandis que j'engageais mon bateau dans le courant. Je volais ma Sein, telle est la vérité pure, colonel, je volais ma Sein. Crowther fit un grand haussement d'épaule. En un mot, j'eus la folie de croire que je pouvais emporter le paquet en Amérique. Tant il y a qu'il partit avec vous, fis-je sottement. Crowther leva sur moi des yeux si étonnés que je ressentis un choc. Assis aux deux coins opposés de mon feu, nous étions, lui et moi, je le compris alors, séparés par des millions de milles. Nous vivions sur des plans différents. Je songeais à des poursuites devant la cour criminelle de Mandalay, à une condamnation, à un emprisonnement, à tout ce qu'empêchait désormais le refus de ma Sein d'avoir plus rien de commun avec Crowther. Et Crowther, lui, songeait à une ou deux existences supplémentaires qu'il aurait à subir, peut-être sous la forme d'une bête vile, pour expier son péché avant d'atteindre à ce néant du Nirvana qui était son but et son espérance. Je fourrai le paquet au fond de ma malle, continua-t-il, et je l'y oubliais. Je ne le retrouvais que par hasard quand je me sentis réattiré par l'Irrawaddy et que je fouillais dans ma malle pour y rechercher des objets dont le contact me rendit la jungle, les buffles aux jambes blanches se désaltérant dans le fleuve, l'assaut des phalènes contre le fanal du navire. Je me demandais un moment ce que c'était, puis je l'ouvris, et dans le tas de mes cadeaux vulgaires, je vis briller un saphir délicieux sans une paille. Vous l'avez vu aussi, colonel, ce soir. Je fis un signe d'affirmation. Le saphir était celui que j'avais vu brûler si doucement sur la gorge blanche de Lady Ransom. Mais comment était-il arrivé là? Michael D. Crowther contemplait, immobile, les charbons du foyer. Je n'osais troubler sa rêverie, crainte de mettre fin à ses confidences dans l'instant même où elles avaient le plus d'intérêt. Je fus payé de ma réserve. Il reprit. Je rapportai à Tagaong le paquet de bijoux. Je l'offris à Maung Loan. Il le refusa. Ma Sein ne voulait plus rien me devoir. Je représentai que le paquet ne contenait pas seulement mes cadeaux. Il s'y trouvait en outre un saphir et 2 spinels. Maung Loan fut poli mais ferme. Ma Sein se rappelait parfaitement les spinels et le saphir, mais elle n'en avait aucun besoin et se réjouirait s'il me plaisait de les garder. Je ne me sentais pas fier, je vous l'avoue, colonel, en revenant à bord. Naturellement, j'aurais pu jeter le paquet dans l'Irrawaddy, mais à quoi cela eût-il servi? Je le mis de côté. Peut-être un jour en trouverai-je l'usage. Et j'en trouvai l'usage plus tard, quand j'eus pris la robe jaune. « Oh !» m'écriai-je en sursautant sur ma chaise. Je commençai de discerner confusément le motif de l'effarant pèlerinage qu'avait amené Crowther de Tybekin à l'Albert Hall. Cependant, Crowther continuait. À côté de mon monastère, une svelte pagode s'effile harmonieusement jusqu'à son thé, à 240 pieds de haut. Une dame fort riche y installait à ses frais la lumière électrique. Un échafaudage y était dressé. Ici, le colonel Strickland fit une digression pour expliquer de coutumes des riches indigènes. Même dans les endroits reculés, ils équipent ainsi leurs pagodes afin que la nuit, des ronds et des lignes de feu aillent très loin dans la campagne éclairer les ténèbres. De plus, les dames d'une grande vertu donnent leurs bijoux pour qu'on les pende en chapelet au plus haut de la pagode, sous le tait du sommet où tintinabulent les pièces de métal et qui la forment d'une ombrelle close. Puis, revenant au point de son récit où il en était resté, Crowther avait imité ces vertueuses dames. Il avait enfilé à la suite les uns des autres bracelets, anneaux de cheville, chaînes, saphirs, et à la faveur de l'échafaudage provisoire, il les avait suspendus au sommet de la pagode en offrande votive. Un jour, me dit-il, deux moines vinrent à la pagode. Je vous laisse à penser ce qu'étaient ces deux moines. Deux convicts libérés, répondis-je. Précisément. Vous croiriez sans doute que les petites rues détournées de Mandalay ou de Rangoon offrent aux anciens convicts un asile mieux indiqué. Mais rappelez-vous qu'il n'y a que deux classes de gens qui aient la tête rase en Birmanie, les convicts et les moines. Joignez que les moines ne prononcent pas de vœux, qu'on ne les soumet à aucune formalité d'initiation, qu'on ne leur demande ni préparation ni savoir. Ils se rasent la tête, se procurent une robe jaune et un bol de mendiant. Tout est dit. Vous voyez ce que le convict libéré y trouve davantage. Sa tête rasée ne le dénonce plus comme un convict, il est un pongi. Et quand, après un certain temps, il sort de son monastère, il a cessé d'être un convict. Voilà tout. Ainsi, mes deux coquins cherchaient refuge à Tabaïkin. Et une nuit, pendant que le monastère dormait, n'ayant à leur disposition d'autre outil qu'un long bambou terminé par un croc, ils escaladèrent la pagode et dérobèrent l'offrande votive de Michael D. Crowther. Ce vol le rejeta dans le monde. « Que les bracelets, que la chaîne d'améthyste en fussent allés, passent encore, dit-il. Mais le saphir de Massein, non. C'était un symbole d'expiation, voyez-vous. Il avait à reprendre sa place sur la pagode de Tabaïkin, dussé-je plonger au fond des mers pour le retrouver. Comme vous le savez, colonel, nous ne sommes pas dans un semblant d'organisation. Je suivis mes voleurs à Rangoon. Là, ils s'étaient séparés. L'un des deux, avec le saphir, avait pris passage pour Ceylan. Je l'y suivis. Il y avait gagné Candy. Je l'y suivis. Il avait vendu le saphir à l'un des marchands qui tiennent boutique sous la colonnade latérale de l'hôtel. Le marchand s'était défait du saphir. Il l'avait vendu à Ray Upway. L'amant de Lady Ransom ? M'écriai-je. Oui, dit Crowther. J'avais encore quelque argent. Je m'embarquais pour l'Angleterre dans l'intention de racheter le saphir. Upway l'avait donné à Letty. Je fis connaissance de l'artiste et lui demandai de me le vendre. Elle refusa. Mais demain matin, j'irai lui dire cette histoire. J'espère qu'elle me le cédera. Je l'espère aussi, dis-je. Il était à ce moment 6 heures du matin. Les amis de Letty Ransom la reconduisaient à son appartement du Sémiramis. Vous rappelez ce qui arriva? Après un breakfast en commun, ils la quittèrent. Elle se coucha, prit une dose excessive de cocaïne et ne se réveilla plus. De sorte que le pauvre homme n'est point rentré en possession de son saphir, soupira toute fâchée du bout de la table l'incorrigible interruptrice. « Attendez un peu, » lui répondit le colonel Strickland. Crowther avait dressé habilement ses plans. L'ennemi, pour lui, c'était l'ami de Letty Ransom, Marcel Leslie. À coup sûr, Marcel ne souffrirait pas que si la pierre devait changer de main, elle passant en d'autres que les siennes. Donc il avait à l'écarter de son chemin dans l'après-midi. Il l'invita à déjeuner au café du Sémiramis, et s'arrangea pour qu'après le déjeuner, son ami des pétroles birmans vint la prendre pour la conduire à une matinée théâtrale. Ainsi, Crowther aurait le temps de mener à bien son projet. Tout marcha comme d'après un horaire établi d'avance. À 1h15, Michael D. Crowther attendait dans le hall de l'hôtel. À 1h30, Marcel arriva, yeux noirs, lèvres écarlates, dents éblouissantes. Elle ne semblait en rien ressentir des fatigues d'une nuit blanche. Ils entrèrent au café et s'assirent à la table qu'il avait retenue. Ordonnez le menu, que désirez-vous ? Lui dit Crowther en lui tendant la carte. Oh, rien de spécial, répondit-elle. Sur quoi elle se mit à commander tout ce qui lui plaisait, sans égard à la saison ni au prix. Et puis, mon cher vieux, offrez-moi un cocktail avec un soupçon d'absinthe. J'ai laissé ce matin chez Letty mon sac de platine, je cours le reprendre. Mais elle aura fermé sa porte à clé, vous allez la réveiller, objecta Crowther. Non. Elle a tenu expressément à ce que le pêne de la serrure restât libre, afin de n'avoir pas à se lever pour aller ouvrir sa porte. Par une chance que Marcel dut considérer comme providentielle, l'ascenseur allait se mettre en marche. Pour quelque motif que ce fût, elle ne supportait pas sans colère d'attendre une seconde. Elle se fit monter au 3e étage où était l'appartement de Letty, redescendit au bout de 5 ou 10 minutes, rejoignit Crowther avec son sac de platine et avala d'un trait son cocktail. Puis elle se jeta dans une conversation spasmodique. Quel bal splendide que celui de la veille! Que la chère Carrie Baines y faisait d'effet, sauf qu'elle n'osait rire par peur de faire craquer son émail. Et quel dommage que Sir James Poland ne prit pas le parti de dételer. Il avait mené son train sans accroc jusqu'à la 60aine. Mais alors, ça avait été pour lui, d'un seul coup, le lumbago, le tic douloureux et le râtelier complet. Sans compter, probablement, une attaque de paralysie, bien qu'il ne voulût pas l'admettre. Cette effervescence tomba soudain. Marcel montra à Crowther une face hagarde. D'une main tremblante, elle le saisit par la manche. « Ne dites à personne que je suis allé là-haut chercher mon sac. Promettez-le-moi, mon vieux. Cela pourrait me faire un tort énorme. Je débute, vous le savez, d'ici à 15 jours et dans un très beau rôle de chant. Au Melody Theatre. Il faut que je sois sur mes gardes. » Uniquement occupée d'elle, elle s'était relancée à corps perdu dans son bavardage avant que Michael D. Crowther, devenu assez lent d'esprit, eût pu lui répondre. Elle ne s'arrêta que lorsque son jeune ami des pétroles vint la chercher pour la matinée. « J'ai divinement déjeuné, » dit-elle à Crowther. « N'oubliez pas votre promesse, voulez-vous » « Est-ce que Letty se levait ?» lui demanda Crowther. « Quand ? » répondit-elle avec un pli de colère aux tempes. « La dernière fois que je l'ai vue, elle allait se mettre au lit. » Michael D. Crowther fut quelque peu décontenancé par cette réponse. Le seul fait, le fait solide auquel il s'attacha, c'était que Letty Ransom ne pouvait pas ne pas se lever dans 1 heure et demie au plus tard. La pendule marquait la demie de 2 heures. En conséquence, il flâna jusque vers 4 heures aux abords du Sémiramis. Il disposait, calcula-t-il, 1 heure encore avant le retour de Marcel. À 4 heures, il monta chez Letty. Un agent de police, le directeur et le médecin de l'hôtel barraient le seuil de l'appartement. « Vous ne pouvez entrer, » firent-ils d'une seule voix. Mais une voix nouvelle se mit en travers du cœur. Un second médecin sortait de la chambre à coucher. M. Crowther était des amis de Letty. Peut-être saura-t-il quelque chose ? Crowther fut admis dans le couloir. Bien entendu, il ne savait rien, ayant quitté l'Albert Hall à 3h30 du matin avec un ami, le colonel Strickland. Il demanda « Qu'y a-t-il donc ?»« Il y a que Letty est morte, » répondit le médecin. Et il introduisit Crowther dans la chambre où Letty reposait, en paix pour jamais avec sa petite âme si vivante et si trouble. Vous vous rappelez sans doute le point de vue de Crowther. Un seul désir le possédait, recouvrait le saphir. Un sacrilège avait été commis. Ses efforts pour le réparer, son voyage, les semaines par lui passées au milieu de jeunes fêtards, lui étaient autant de gagner sur l'expiation de ses péchés. Le saphir était le principe de toutes ses pensées, comme il en était le terme. Quant à la mort de Letty, il voyait, pour la jeune femme, ou bien l'entrée dans une autre existence faite d'épreuves purificatrices, ou bien la merveilleuse fin de la conscience et de l'identité. Ce n'était pas là un sujet d'affliction et de larmes, même s'agissant de cette petite personne en qui se mêlaient le bon et le mauvais. D'autant que, généreuse, indulgente aux autres, dépourvue de malice, elle avait dû naître un état plus voisin du mérite et de la perfection. Crowther garda donc toute sa présence d'esprit pour faire, des yeux, le tour de la chambre. Il vit les bagues de Letty sur un plateau de porcelaine, sa robe et ses bas jetés au petit bonheur dans la pièce, ses souliers se battant sous une chaise. Où était le saphir ? « Quand, demanda-t-il, est-elle morte ? Il y a 1 demi-heure. Et toute seule ? » répondit le médecin sur un ton apitoyé. « Certainement pas plus 1 demi-heure. Aurait-on pu la sauver ?» Le médecin prit son temps pour répondre. « Je le crois, » dit-il enfin. « 1 heure plus tôt, peut-être. Ou 2 heures. Oui, 2 heures. Vous en êtes sûr ?»« Très sûr. » Le médecin regarda la morte. « C'est la faute de ce bal, voyez-vous. » Un jour ordinaire, les amis de Letty eussent carillonné sans arrêt à sa porte pour lui proposer ceci ou combiner cela. Mais ils étaient tous couchés, eux aussi. C'est pur hasard si je l'ai appelé au téléphone il y a 1 demi-heure, sans pouvoir obtenir de réponse. Crowther laissa son adresse au policeman, descendit au rez-de-chaussée, prit un taxi et se fit conduire chez Marcel. Elle n'était pas revenue de sa matinée théâtrale. Il s'assit et l'attendit. Elle arriva vers 5h30 en trombe. Apercevant Crowther, elle blêmit et chancela. « Je ne vous avais fait aucune promesse à déjeuner, Marcel. » Marcel Leslie voulut aspirer une gorgée d'air. Un horrible sifflement lui sortit de la gorge. « Que voulez-vous dire ? Que Letty est morte, et que vous auriez pu lui sauver la vie. » Elle s'effondra sur un siège. Elle grelottait comme dans un accès de fièvre et ses dents s'entrechoquaient.
« Je fus épouvanté en la voyant, » balbutia-t-elle. « Sa respiration faisait un bruit terrible. J'étais bien forcé de penser à moi, n'est-ce pas ? Elle prenait de la cocaïne. Qu'elle mourût, ce serait un scandale. Un scandale qui rejaillirait sur tous ceux qui l'auraient approché, fréquenté. Je perdis la tête. J'attrapai vivement mon sac et je m'enfuis.
De sorte que Letty est morte alors qu'on pouvait encore la réveiller.
Marcel Leslie se jeta aux genoux de Crowther.
Vous n'irez pas cela. Vous ne me sacrifierez pas.
Personne ne m'a vu entrer dans la chambre.
Gardez-moi le secret, promettez-moi, je vous en conjure.
Des larmes mouillaient ses joues.
Soit, je vous promets le silence, dit Crowther, mais à une condition. Vous allez me rendre le saphir de Letty, volé par vous sur sa table de toilette.
Marcel rebondit sur ses jambes, souriante, affranchie de toute crainte. Le saphir, que lui importait le saphir?
En somme, elle avait affaire à quelqu'un qui ne valait pas mieux qu'elle, à un maître chanteur, et peu exigeant.
« Ah bon? Vous y voilà, mon vieux ? » s'écria-t-elle. Farfouillant dans son sac, elle en tira le pendentif de saphir qu'elle poussa devant Crowther, et avec un rire de camarade,
« Vous êtes simplement tout pareil à moi. »
« Dites, répondit Crowther, que je suis sans doute pire. »
Cela se passait il y a 2 jours. J'ai vu cet après-midi Michael D. Crowther.
Il revenait de Southampton, qui doit être la première étape de son voyage sur le chemin de Tabaykin.
Je vous avais promis un récit qui embrassa la surface du monde et fut néanmoins aussi complet qu'une fable ancienne.
À cette conclusion succéda une minute de silence, puis des chaises remuèrent, un brouhaha de compliments courut autour de la table.
« Toutefois, reprit Strickland, est-il bien certain que je vous ai dit la fin finale de l'histoire ?
La voici, peut-être. »
Crowther voulait à tout événement emporter mon approbation. Le bail de mon appartement est expiré. J'émigre au Sémiramis. En revenant de Southampton, Crowther me rendit visite à mon nouveau domicile. C'est l'appartement même qu'occupait Lady Ransom. Tout ce qui lui appartenait en a été enlevé. Seulement une grive s'était perchée sur la fenêtre. Et elle y chantait, comme si elle eût été chez elle.
Ainsi s'achève le saphir par Alfred Edward Woodley Mason.